Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous, le magazine de la bonne soirée qui se passe en deux temps et à deux vitesses, dès 18h en avant-première sur franceinter.fr ou à 22h à l'antenne comme tout le monde. Première partie, l'actualité et la musique live. Et l'actu ce soir, c'est politique à la barre, procès des magistrats. Procès de Jean-Luc Mélenchon, mise en examen de Jean-Marie Le Pen, de Richard Ferrand, Balkany condamné, François Fillon et Nicolas Sarkozy bientôt à la barre. Et chaque fois la même défense, c'est un procès politique. La justice voudrait se payer les hommes politiques. Faux, répondent les syndicats de magistrats qui répliquent. La justice, ce n'est pas que pour les autres. Ça vous a inspiré, Christophe Bourseiller, le jour de la mort de Jacques Chirac?
Oui, c'est un hasard. J'avais prévu le sujet un petit peu avant la mort de Jacques Chirac, mais Jacques Chirac, évidemment, a connu quelques affaires aussi, donc peut-être planera-t-il au-dessus de nos débats.
Qu'en pensez-vous? Le titre, qu'est-ce que vous avez donné comme
titre? J'ai des titres. J'en avais un tout simple, politique tous coupables, ça c'est le côté journaliste. Sinon, j'avais Mélenchon et les autres, c'est un complot. J'avais aussi faites entrer l'accusé politique, ou alors politique, les juges, ils prennent parti. Point d'interrogation.
Surtout quand il y a une dramaturgie dans votre phrase. Quelle invention. L'actualité musicale, bien sûr, elle sera live avec Marion Guilbeault.
Ils nous promettent du sang, des larmes, une apocalypse, le chaos, c'est la pop futuriste et la belle folie du groupe Pion. Ils vont être en live à la fin de l'émission.
Ça, c'était pour la première partie. Mais en deuxième partie, autre temps, autre parole, le Énervé la Suite ce soir s'offre une dernière fois France Inter plus de Sigmund Freud. Au programme, la parole de ses contradicteurs. La psychanalyse n'existe pas. C'est une nébuleuse sans consistance, une cible en perpétuel mouvement. La déclaration de guerre est signée par un des plus virulents polémiques repentis de la psychanalyse, Michael Borsch-Jacobsen, et il ouvrira le débat. Alors, le Énervé, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et je vous présente tout de suite nos invités autour de la table. Philippe Bilger, vous êtes ancien juge d'instruction. Votre prochain livre, Le mur des cons, le vrai pouvoir des juges, paraîtra le 2 octobre prochain chez Albin Michel. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Gabrielle Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire. Bonsoir.
Bonsoir.
À votre côté, Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. L'hologramme, c'est vous. Bonsoir.
Non, c'était pas moi.
C'était vous l'hologramme.
Moi, c'est la chaîne YouTube plutôt.
Ouais,
bonsoir.
Bonsoir. Et enfin, Abel Mestre, journaliste au Monde. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Christophe Bourseiller.
Et moi, la démocratie, c'est moi quand même.
Je tiens à le dire.
C'est pour ça que je prends la parole pour cet éditorial. Vous avez remarqué, Laurent, que quand des femmes ou des hommes politiques font effectivement l'objet d'instructions judiciaires, ils disent toujours la même chose, c'est-à-dire nous sommes les victimes de procédures politiques. Il y a un complot politique visant à nous réduire au silence. On est en train de tuer la démocratie. Alors évidemment, chacun se gausse en disant ça y est, ils recommencent, ils disent tous la même chose, c'est une parade. Et pourtant, et si c'était vrai, Laurent? Souvenez-vous, Laurent, de l'affaire, d'une des nombreuses affaires Sarkozy. Des conversations privées qu'il avait eues sur son portable avec son avocat avaient été rendues publiques. Par qui? Par la police? Par le procureur? On ne sait pas trop. Et l'affaire Fillon, je ne prononcerai évidemment absolument pas sur le fond, mais la procédure judiciaire a démarré le jour où il a annoncé sa candidature à la présidence, tous les sondages le donnant comme favori. Fâcheux hasard. Et Jean-Luc Mélenchon, bon, il est un peu nerveux comme garçon, mais est-il coupable? On n'en sait fichtrement rien, puisque nous en sommes à 17 mois d'enquête préliminaire sans que les incriminés, justement, aient accès au dossier. Alors, le problème en France, c'est qu'on est en droit présumé innocent jusqu'à son procès, mais dans les réseaux sociaux, cette poubelle de l'histoire, on est coupable et châtié sur une simple présomption. Mélenchon coupable, Bayrou coupable, Le Pen coupable, et j'en passe évidemment. Philippe Bilger, c'est à vous que je poserai la première question, parce que vous avez été, bien sûr, pendant très longtemps juge.
Et justement, avocat général.
Avocat général, procureur, c'est encore plus fort.
Ça date un peu maintenant.
Tout à fait. Or, Jacques Chirac, que nous commémorons aujourd'hui, a vécu de nombreuses affaires, mais c'était avant les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'était mieux avant, de ce point de vue-là? Est-ce que les réseaux sociaux ont aggravé la situation judiciaire de la France?
Probablement. Moi, je crois évidemment à l'obligation pour les politiques qui ont commis, auxquels on soupçonne, dont on soupçonne les agissements, d'être renvoyés devant la justice. Je trouve que la justice n'est pas politisée, mais que des politiques sont jugés, parfois condamnés. Les réseaux sociaux ont ajouté quelque chose de très délétère. Vous l'avez un peu évoqué, c'est-à-dire des condamnations expéditives, évidemment, sans les garanties et sans le débat judiciaire. C'est tout à fait dramatique.
Antoine Léauté, vous êtes responsable de la communication justement numérique de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes au cœur de tout ça. On a l'impression aujourd'hui que cette communication, Jean-Luc Mélenchon ne sait pas trop s'il la maîtrise. On a l'impression ces derniers temps, alors c'est vrai qu'il y a toutes ces affaires, de sa part, d'une sorte de surenchère dans la provocation. Alors la question c'est, est-ce qu'il maîtrise pas ses nerfs, Jean-Luc Mélenchon, ou est-ce qu'il déplace le débat? Pourquoi on parle pas du fond?
La question est posée de telle manière qu'il est difficile de donner une réponse qui ne soit pas négative pour Jean-Luc Mélenchon. Mais pour venir simplement sur le fond du sujet que vous posez, il y a un problème dans le débat, c'est que vous mettez tout le monde, à mon avis, hein, vous mettez tout le monde sur le même plan.
Mais parce qu'ils donnent tous les mêmes raisons, ils disent la même chose, c'est un complot politique.
Tout le monde n'est pas dans la même situation. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, il y a une spécificité. En réalité, il y en a deux. La première, c'est que au moment où ont lieu les perquisitions, c'est l'opposant politique numéro un à Emmanuel Macron. Et la deuxième, c'est que ces perquisitions et le procès que nous avons eu au tribunal de Bobigny, tous ces éléments sont menés par le parquet, qui est directement lié à la responsabilité du ministère de la Justice et à Madame Belloubet. Donc on est dans un cas particulier qui est celui d'une justice qui est directement liée au pouvoir politique. Dans le cas des perquisitions, on a une autre exception qui est celle de l'ampleur des perquisitions. En réalité, on n'a pas eu des perquisitions de cette nature chez d'autres mouvements politiques. Et quand on a des perquisitions de cette nature, elles sont plutôt
qu'est-ce
des narcotrafiquants ou chez des terroristes. Parce que
il n'y avait pas la brigade anti-gang.
Il n'y avait pas la brigade anti-gang, effectivement. Mais vous aviez l'intégralité du service de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale mobilisé pour mener 17 perquisitions. Moi-même, j'en ai subi une perquisition avec 4 policiers qui sont venus chez moi en armes, en gilet pare-balles, à 7h30 du matin, après avoir frappé aux portes de mes voisins, parce qu'ils ne savaient pas exactement où j'habitais. Ça vous donne une idée des relations de voisinage qu'on peut avoir ensuite quand les policiers viennent toquer chez vos voisins. Mais je vous dis ça pour l'aspect désormais un petit peu comique de la situation, mais pour vous faire comprendre aussi que c'est une opération qui n'est pas normale dans un pays où on peut penser que les opposants politiques doivent avoir au moins... il doit y avoir au moins les apparences d'une justice indépendante. Là, c'était pas le cas.
Parce que vraiment, c'est une opération qui n'est pas normale, Gabriel?
Alors déjà, une perquisition, je crois que tous ceux qui l'ont vécu peuvent en témoigner, c'est jamais très agréable ce que vous décrivez. Moi, j'ai pas vécu de perquisition, mais pour avoir entendu des gens autour de moi en parler, c'est en général, ils n'arrivent pas avec un bouquet de fleurs. Il ne faut pas se leurrer. Et dans ces cas-là, mieux vaut ne pas faire obstruction, parce que plus on tente de protester et plus les choses se gâtent, c'est peut-être aussi ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas là et je ne peux pas en préjuger Jean-Luc Mélenchon. Ce que je remarque, c'est que on peut dire que la vérité est peut-être un peu au milieu, c'est-à-dire que les politiques crient au complot, la justice dit qu'elle est indépendante. Ne soyons pas angéliques, c'est jamais tout à fait ainsi que cela se passe. Moi, je remarque, vous parliez de tribunal populaire, je remarque que les politiques l'alimentent aussi, ce tribunal populaire. Il faut voir dans l'affaire Fillon, et on l'a vu, ça a été assez amusant, ça a été une affaire en cascade qui a été notée avec l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que François de Rugy avait dit, ah oui, est-ce qu'on verrait le général de Gaulle, ceci, cela. Puis Ferrand, voyez, c'est une espèce de d'épuration en cascade, un petit peu comme quand Danton, qui passait sur l'échafaud, disait à Robespierre, tu seras le prochain. Donc, il faut voir qu'eux aussi se plaignent de ce tribunal politique, mais ils l'alimentent. Ce que je note néanmoins, c'est que il n'y a aucune solidarité entre les politiques. En tout cas, j'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon dire...
Richard Ferrand, justement.
Alors, peut-être pour Richard Ferrand, mais j'ai jamais Jean-Luc Mélenchon entendu dire Marine Le Pen fait vraiment l'objet d'une injustice. Mais François Fillon, c'était si près des élections qu'on peut se demander. Cela dit, je connais pas ses œuvres complètes, vous devez les connaître mieux que moi.
Absolument.
Mais j'ai pas l'impression.
Non, là, il court
à la perquisition à Belmestre. Vous avez l'impression que cette perquisition est très différente de ce qu'on pouvait attendre et que, en quelque sorte, Jean-Luc Mélenchon a été mis sur un piédestal au nid?
Alors, juste pour faire, pour rebondir sur ce que vient de dire, Gabriel Cluzel, c'est que c'est un peu normal que Jean-Luc Mélenchon ne se dise pas solidaire de Marine Le Pen, puisque les signalements qui concernent les assistants parlementaires viennent de Sophie Montel, qui était une élue Front National avant de se fâcher avec Marine Le Pen.
Par exemple, pour les photos de djihadistes, intéressant.
Oui, enfin bref. Ensuite, sur les perquisitions, on peut noter l'ampleur inédite de ces perquisitions pour un siège au siège d'un mouvement, et aussi au domicile de plusieurs collaborateurs et anciens collaborateurs. Ça n'empêche que la justice faisait et la police faisait leur travail, mais on peut entendre l'argument de Jean-Luc Mélenchon qui était de dire ce sont des perquisitions d'une ampleur inédite et c'est choquant contre
c'est
un mouvement d'opposition.
C'est plus fort que ce qu'il y avait eu auparavant Rassemblement National ou Républicain ou Modem.
Jean-Luc Mélenchon n'a pas été le seul responsable de parti à faire l'objet d'une procédure. Ensuite, j'admets bien volontiers que l'appareil mis en œuvre avec la multitude des perquisitions n'est pas ordinaire, mais ce que je dénie, c'est qu'elles aient été décidées au niveau de la chancellerie. C'est là où il me semble que Jean-Luc Mélenchon se trompe. Peut-être y a-t-il cette multitude de perquisitions parce que dans ce qui lui était reproché, il y avait des atteintes directes à la police et à la magistrature, je n'en sais rien. Mais la justice, pardon de le répéter, n'est pas politisée dans le sens où Jean-Luc Mélenchon le dit.
Alors justement, à propos de Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'on pourrait l'entendre dans son rapport à la justice, petit mix de ses déclarations, parfois contradictoires.
Rendez-vous.
Je ne crois pas les juges et je n'ai pas confiance dans la justice.
C'est un abus de pouvoir. Je ne crois personne. C'est une instrumentalisation politique de la justice.
La République, c'est moi !
Celui-ci qui ne veut répondre de rien, l'autre qui refuse les convocations.
Chacun d'entre nous répond de ses actes devant sa propre conscience et ensuite devant la justice. Voilà. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un temps pour la justice et un temps pour le reste. Le temps de la justice, c'est le temps permanent.
Je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à la justice.
Vous savez, quand on n'est pas content de la justice, il faut changer les lois, pas mettre en cause les juges.
Il y a des opinions très variées sur la justice et le rapport aux politiques, non ?
Non, je crois.
Antoine Léaumont.
Je crois pas. Après,
dans les déclarations, pensée, manifestement, oui.
Notre pensée aussi évolue au regard de ce que nous vivons au fur et à mesure. Moi, je voudrais revenir sur plusieurs éléments. D'abord, sur le caractère exceptionnel. Vous avez dit d'autres mouvements politiques ont eu des perquisitions de ce genre. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous avons eu des perquisitions à nos domiciles privés. Tous. Ça n'a pas été le cas, ni pour le Modem, ni pour le Front National. Ensuite, sur l'opposition aux perquisitions, on dit souvent qu'on a essayé de s'opposer aux perquisitions. C'est aussi faux. C'est-à-dire que si vous regardez les images de Quotidien, les images dans leur intégralité,
dans
parce
leur intégralité,
Quotidien
oui.
a sélectionné les moments les plus tendus.
Non, mais après, ils ont donné dans l'intégralité.
Voilà. Et quand on regarde les images dans leur intégralité, ce qu'on constate, c'est que tous nos parlementaires disent vouloir assister à la perquisition. Ce qui est une demande légitime, parce qu'en réalité, vous devez avoir le droit. Pour vous donner un exemple de différence de traitement de faveur, quand M. Benalla, on a voulu aller chercher chez lui faire une perquisition, on lui a donné un jour de plus le temps de planquer son coffre. Voilà. Donc il y a quand même une différence de traitement entre 17 perquisitions en même temps dans des domiciles privés et pas seulement dans le siège d'un parti politique. Mais par ailleurs, juste pour finir sur ça, c'est aussi un problème par ailleurs que des perquisitions puissent avoir lieu au siège d'un parti politique sans surveillance. Parce que dans notre siège, en l'occurrence, il y a un document qui est très important qui s'appelle le fichier de la France Insoumise. Et dans ce fichier, il y a des magistrats, il y a des policiers, il y a des gens qui sont dans l'armée. Et peut-être que on n'a pas très envie, voyez-vous, que le gouvernement ou les juges, ou je ne sais qui, mais dans cette affaire, on a eu beaucoup de fuites aussi. On n'a pas envie que ce fichier soit dans les mains de n'importe qui.
Philippe Bilger.
Je trouve un petit peu discutable toujours cette manie française de dire « Ah, ce qui s'est passé est grave, mais on a connu pire, on a fait pire avec Benalla » ou « Quand Balkany est condamné, on dit « Mais c'est beaucoup trop, pensez à l'époque ». Non, c'est une procédure qui a connu une ampleur considérable, je vous l'accorde, mais qui, encore une fois, aurait dû appeler de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui à un certain moment tout de même a disjoncté, une sorte de respect, d'exemplarité, c'est cela qui me gêne. Si quelqu'un d'autre l'avait fait de la même manière, je l'aurais dénoncé. Voilà un homme qui a un talent et une intelligence certains, qui est parfois emporté par son aptitude au langage et qui probablement ne maîtrise pas toujours une intelligence hors de pair. Pardon, j'ai l'impression que par moments, il est plus gouverné par la frénésie et le bonheur d'un langage qui est très remarquable dans un monde très pauvre sur ce plan-là, plutôt que par une pensée, quoi. Une volonté d'opposition à tout prix, mais j'ai peut-être tort.
Pardon. Gabriel Cluzel.
Oui, non, mais que en effet Jean-Luc Mélenchon soit de la génération, la dernière génération des tribuns, c'est évident, et peut-être qu'aujourd'hui ça lui dessert parce qu'on ne les aime plus. Là, il s'est servi de cette perquisition comme du tribune, et semble-t-il, ça n'a pas plu. Moi, je ne veux pas juger, je ne sais pas. En effet, je dois dire que comme bon voisin, c'est rare, je suis d'accord avec lui, mais néanmoins, en effet, l'affaire Benalla laisse malgré tout beaucoup de points en suspens. Cette affaire de coffre-fort, c'est quand même assez énorme.
C'est énorme.
Alors moi, je en effet. effet, je ne suis qu'une citoyenne ordinaire, je ne suis pas magistrate, mais néanmoins, parler d'une, comment dire, neutralité absolue de la justice, ça me paraît très angélique. Oui. Vous, d'ailleurs, votre livre s'appelle Le mur des cons. On connaît quand même les positions d'un certain nombre de juges. Je crois que ça a choqué un certain nombre de Français. On peut pas imaginer que ça n'ait pas des répercussions. Ce que je voudrais dire pour Esprit de justice, c'est que peut-être que la perquisition ne s'est pas passée comme elle aurait dû. Je ne sais pas, je ne peux pas juger. Je veux bien vous croire. Néanmoins, ce n'était pas des affaires de perquisition, mais il y a eu d'autres faits en matière de traitement judiciaire d'hommes politiques qui n'ont pas été faits, me semble-t-il, tout à fait dans la parfaite neutralité. Encore une fois, l'affaire François Fillon a été traitée à une vitesse. On aimerait que les plaintes de tous les Français soient traitées à cette vitesse-là. On peut parler aussi, néanmoins, des photos de djihadistes qu'avait tweeté Marine Le Pen, des exactions djihadistes. Ça a pris des proportions incroyables. Elle a été convoquée pour expertise psychologique. Alors là aussi, on dit, ah oui, non, c'est normal, c'est la procédure normale. Non. Enfin, avouons que c'est quand même un peu particulier. Donc je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon soit le seul martyr sur la place publique.
Alors, deux choses. D'abord, sur la référence au mur des cons, donc c'est référence au syndicat de la magistrature, qui a fait un communiqué dénonçant les propos de Jean-Luc Mélenchon, donc on peut pas les soupçonner d'être pro-Mélenchon. Et deuxièmement...
Ils n'ont pas besoin de ça pour démontrer qu'ils sont de ce côté-là.
Ils peuvent être de gauche sans être mélenchonistes.
Bien sûr,
voilà. Vous avez tout à fait raison. Ensuite, on peut pas non plus dire que Jean-Luc Mélenchon n'accompagne pas ces théories d'une pensée, puisqu'il essaye, plusieurs semaines, de mettre sur la place publique le débat du lawfare, donc l'instrumentalisation politique de la justice, alors peut-être avec une façon de faire qui est un peu excessive par moment dans les prises de parole, mais en tout cas qui a le mérite de poser une question. Aujourd'hui, est-ce que la justice est indépendante ou pas?
Ah bah ça, ce sera l'occasion de.
Mais c'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul homme politique qui en parle.
On en parlera tout à l'heure, oui.
J'anticipe un peu.
Mais vous avez raison, Mélenchon a dit à propos de ce qui lui arrivait, c'est un procès politique pour nous détruire. Mais je voudrais qu'on parle un peu du fond, parce qu'en fait, il y a deux procès. Il y a le procès parce que donc il a été un petit peu nerveux le jour de la perquisition d'octobre 2018. Et puis il y a les raisons de la perquisition. Alors les raisons de la perquisition, il y en a quoi? Il y a deux raisons. D'abord, il y a une enquête qui est en cours pour l'instant. Sur 20 collaborateurs européens de Mélenchon, quand il était député européen, 13 travaillaient apparemment à Paris. Il a été député européen de 2009 à 2017. Et puis il y a une deuxième affaire, c'est sur les comptes de campagne et des facturations suspectes qui concernent l'association L'Air du Peuple de Bernard Pinerol et Mediascope de Sophie Chikirou. Sur ce point, qu'est-ce que vous nous répondez, Antoine Léaumont?
Eh ben, je vous réponds qu'on est typiquement dans une situation de lawfare. Parce que vous êtes en train de répéter en boucle
Je pose la question.
Non, je veux dire.
J'essaie de comprendre.
Justement, c'est un des principes du lawfare, c'est le rôle de la répétition des accusations.
Je vous demande de me répondre
Attendez, je vais vous répondre sur le fond. Mais d'abord, je me permets d'attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que la répétition systématique des chefs d'accusation, et non pas des preuves, constitue l'un des principaux problèmes du lawfare, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure.
Lawfare, c'est la guerre du droit, hein.
C'est l'utilisation
délibérée de la justice et de la police.
Dont on espérait parler dans la troisième partie.
Voilà. D'élimination politique d'un adversaire.
Moi, je peux vous en parler. Par exemple, dans une des choses que vous avez dites, il y a des choses qui sont de l'ordre de la méconnaissance du système du fonctionnement du Parlement européen. Il y a deux statuts d'assistant européen et il y a un statut qui est de collaborateur local. Donc c'est normal de ne pas travailler au Parlement européen quand on est un collaborateur local. Ce que je veux dire, c'est que ces deux affaires, dans les deux cas, il s'agit de dénonciations. Dans un cas, c'est ce qu'a dit Abel Metz tout à l'heure, il s'agit d'une dénonciation d'une députée Front National qui dit elle-même vouloir faire un pied de nez à la justice parce que Marine Le Pen était elle-même avait elle-même une enquête sur ses assistants parlementaires. Et dans l'autre cas, il s'agit d'une histoire complètement ubuesque où Monsieur de Chalvron commence par faire des critiques sur la gestion des comptes de campagne dans la presse, il se fait dégager. Et ensuite, le président de la commission des comptes de campagne, Monsieur Laugereau, après avoir validé les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, donc dit qu'il n'y a pas de problème, finalement finit par faire un signalement sous la pression des articles de presse qui disaient justement qu'il y avait un problème si on en écoute Monsieur de Chalvron. Donc on est dans une situation complètement ubuesque et depuis le début, personne n'a avancé le moindre élément de preuve. Donc nous sommes dans... Je finis juste sur ça. Nous sommes dans des perquisitions, un procès ensuite qui fait suite à ces perquisitions et une enquête dont on ne sait rien sur la base de dénonciations sans preuve.
mur du son de l'épée, c'est le nouveau projet d'Emmanuel Seigné, de The Liminianas et d'Antoine Newcombe. L'épée qu'on pourra retrouver demain soir en live et en grande forme dans Côté Club à partir de 21h sur France Inter. La programmation est tranchante ce soir de Jean-Baptiste Audibert. C'est super.
Bravo.
Nul n'est parfait, nous savons tous. Moi non plus, vous le savez sans doute.
Et le pilori est dressé. Donc Monsieur Ferrand va être mis au pilori pendant plusieurs jours, peut-être une grande semaine.
La présomption d'innocence, elle vaut pour Richard Ferrand, ni plus, ni moins, que pour n'importe quel autre citoyen.
France Inter.
Patrick Balkany, il n'est pas au-dessus des lois. Les responsables politiques ne sont pas au-dessus des lois et ils ne sont pas non plus en dessous. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a un acharnement.
Le nouveau rendez-vous. Plusieurs élus des Républicains veulent changer les dates du procès Fillon.
Moi, je suis pour une démocratie apaisée. Avoir une conclusion trois jours avant les élections municipales, je ne suis pas certain que ce soit les conditions de cet apaisement.
Laurent Goumard.
Richard Ferrand, Patrick Balkany, François Fillon, acharnement de la justice, procès politique, on en parle ce soir avec nos invités, un ancien juge d'instruction, Philippe Bilger, Abel Maistre du Monde, Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire et Antoine Léaumont, qui est responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. On entendait tout de suite Balkany, on entendait... Oui. Quand on pense à Balkany, on se dit tiens, il va directement en prison, il faut dire que ça fait depuis longtemps que les gens l'attendent, mais directement en prison, et pas Jérôme Cahuzac. Ça paraît très étrange.
Mais écoutez, c'est que les procès n'ont pas été les mêmes, que les présidents et les assesseurs n'ont pas été les mêmes, que les plaidoiries peut-être ont été plus convaincantes ici et moins convaincantes là. Pardon de rappeler ce poncif, la justice est humaine. Dans le cadre de l'état de droit, moi je n'aurais pas pleuré si Cahuzac avait été incarcéré. Mais je me contente pour l'instant de dire tout le bien que je pense du jugement de Patrick et d'Isabelle Balkany.
Alors, la justice est humaine, sans doute, mais est-ce que la justice est politisée? C'est finalement la question qu'on peut se poser.
Christophe,
des juges qui penchent d'un côté ou de l'autre et qui ont fonction?
De le répéter, je me sens d'ailleurs assez généralement tenté de parler dans un désert médiatico-judiciaire sur ce plan-là. Lorsque j'entends Gabriel Cluzel venir dire « Ah, on a l'impression que la justice n'est pas neutre », il faut être clair, on trouve que la justice n'est jamais neutre lorsqu'elle condamne quelqu'un de son camp. Je regrette en permanence on a ce soupçon sur la justice et si on voulait bien admettre un jour qu'elle a beaucoup progressé sur le plan de l'indépendance et je pourrais le démontrer Christophe quand ce sera le moment. Non.
Mais elle a quand même la justice une dimension, c'est que ça je voudrais vous citer un éditorial de Natacha Tatu dans l'Obs très court. Pourquoi Balkany est-il en prison, demande-t-elle. Si Balkany méritait d'être sévèrement sanctionné, devait-il pour autant aller en prison? S'ils n'obéissent pas au pouvoir, les magistrats donnent quelquefois l'impression fâcheuse de ne pas être insensibles à la pression de l'opinion publique. Abel Maistre.
Moi, je trouve que sur la question de l'instrumentalisation politique de la justice, on parle des hommes politiques et des femmes politiques connues, mais il faut aussi noter le sort qui est réservé à des militants syndicalistes moins connus, à des... ou un militant antifasciste qui s'appelle Antonin Bernanos, qui est pas du tout connu non plus. Et il faut peut-être s'extraire aussi de la facilité d'observer les personnes, oui, qu'on connaît tous depuis des années, qui ont des affaires derrière eux et qui peuvent être condamnés, et aussi le sort du quidam moyen, militant, de gilets jaunes qui peuvent passer en comparution immédiate. Interroger aussi un système global pour savoir s'il n'y a pas aujourd'hui. Voilà, exactement. Est-ce qu'ils sont maltraités? Aujourd'hui, il n'y a pas l'expression, une répression judiciaire accrue sur toutes les radicalités politiques, et je peux même mettre les condamnations des militants identitaires qui ont eu 6 mois ferme, plus je crois suspension de droits familiaux. On peut aussi s'interroger sur l'ensemble de ces condamnations.
Que la justice fait enfin son travail. Et ensuite Gabriel.
Abel Maistre, je ne le crois pas. Il y a derrière votre propos évidemment intelligent l'idée qu'il y aurait deux poids deux mesures. Je ne le crois absolument pas. Il y a un poids une mesure. Simplement, la justice aujourd'hui condamne ou examine au regard de la situation, de la condition, du pouvoir, des privilèges de chacun. Moi, heureusement, je condamne de la même manière les gilets jaunes qui ont perpétré des exactions et je suis pas du tout choqué. Et évidemment, je le répète, la condamnation exemplaire de Patrick Balkany, il n'y en est pas beaucoup, Christophe, contrairement à ce que dit Natacha Tatu, qui aurait imaginé qu'il serait arrêté à l'audience.
Gabriel Cluzel.
Non, mais vous nous présentez la justice, Philippe Bilger, comme si elle était une mécanique tout à fait désincarnée. Mais les juges sont des hommes, donc je crois qu'il faut être manichéen ni dans un sens ni Absolument. Dans un autre, qu'on est tenté dans nos pays, et c'est tout à notre honneur, de rendre l'institution judiciaire libre et de faire en sorte que chacun, que tous les administrés soient égalité devant la justice. Certes, mais les juges restent des hommes. Pardon, mais quand je vois des militants écologistes, alors moi, il n'était pas question de les envoyer dans la case prison, c'est pas le problème. Mais néanmoins, ils ont pris un portrait d'Emmanuel Macron. Ils l'ont pris, et voilà, c'est tout. Et que le juge les a relaxés en disant bien, oui, il y avait une urgence légitime,
vous contredisez votre propre argumentation. Non. Moi aussi, j'aurais pu prendre deux anomalies qui démontre en effet que chez certains, il y a une justice politisée, ce juge en effet qui parle et puis le procureur de Nice qui anticipe les vœux du président de la République, qui n'a jamais rien ordonné. Mais dans la majorité des situations, vous n'avez pas de justice politisée.
Oui, mais néanmoins, ça peut exister, donc nous sommes bien d'accord. Et je crois qu'il ne faut, pas avoir peur du ressenti des gens. Quand les gens ont ce sentiment-là, c'est peut-être qu'il faut aussi faire un examen de conscience et se dire mais pourquoi y a-t-il un désamour entre les Français et leur institution judiciaire ? Je pense que c'est important de se poser la question.
Antoine Léaumont.
On est un peu au croisement de plusieurs questions en réalité, parce que vous parlez de l'humanité des juges. Et effectivement, si la justice était totalement neutre et totalement impartiale, on foutrait un robot, on lui mettrait des textes de loi, la situation, et il sortirait une peine qui serait la même pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Il y a des jugements qui varient en fonction des situations, en fonction, vous l'avez dit aussi, de la pression politique qui s'exerce dessus et de la pression populaire qui peut s'exercer dessus. Quand la ministre de la Justice dit que la justice doit être implacable avec les gilets jaunes, elle envoie un mot d'ordre aux procureurs qui vont attaquer les gilets jaunes, qu'il faut effectivement essayer de
elle
leur mettre des gros...
Elle n'a jamais dit ça.
Si, elle a dit ça.
Non, elle n'a jamais dit ça.
Elle n'a peut-être pas dit implacable, peut-être que je me trompe sur le mot, mais l'idée était la même, c'est-à-dire qu'elle disait qu'il fallait être ferme, enfin, l'idée était la même. Peut-être que le mot n'est pas exact, mais l'idée était la même. Et quand elle dit ça, elle envoie un mot d'ordre. Et quand le juge finit par juger en disant... Il est allé assez loin. Il dit que c'est une urgence. Ils veulent dénoncer une urgence climatique et qu'il n'y a pas d'autre moyen démocratique de le faire. Là encore, il me manque la formule exacte, mais c'est en gros l'idée. Le juge, dans ce moment, défend une vision de la politique, une vision du monde, qui est une vision, à mon sens, démocratique, positive, etc. Donc, vous voyez que, y compris dans les jugements, il peut y avoir de la politique qui entre. Nous, dans notre cas, ce qu'on dénonce, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le principe politique qui peut être à l'origine de décisions judiciaires. Mais dans les deux cas, à la fin, c'est le juge qui décide. Pour aller juste jusqu'au bout de ça, le juge du siège que nous avons eu lors de notre procès, moi honnêtement, je trouve qu'il a fait un travail remarquable. On a pu avoir des avis dans un sens, dans l'autre, comme c'est le cas dans un jugement. Il a tenu la salle d'une manière absolument respectable. Nous verrons ce qu'il décidera. Mais en tout cas, il peut être, à notre sens, le siège peut être l'un des grains de sable qui vient enrayer la machine du lawfare, puisqu'on estime être
mais
dans
le paradoxe, Antoine, si vous me le permettez, c'est que vous dénoncez dans la majorité des cas une justice politisée qui ne l'est pas à mon sens, et en revanche, lorsqu'un juge rend une décision complètement étrangère à l'état de droit, en faisant entrer l'idéologie pure dans un débat judiciaire, là vous le trouvez remarquable. J'avoue que je ne sais
pas.
Non,
j'ai pas...
Ah si, vous avez dit le faire entrer la politique, c'est très bien, alors que c'est une aberration totale.
Non, je vous disais que ça donne la preuve que la politique peut intervenir dans les jugements.
Mais moi, Antoine Léaumont, vous oubliez quelque chose quand même important. Enfin, c'est que parmi les nombreuses affaires politiques qui ont éclaté ces derniers mois ou ces dernières années, il y a énormément de gens proches du gouvernement ou de la majorité qui ont été touchés par les juges. Richard Ferrand, François de Rugy, François Bayrou, Alexis Kohler, Françoise Nyssen, Muriel Pénicaud, Ismaël Emelien, tout ça, ce sont des gens qui sont proches du pouvoir.
Avec des
On
ne
peut pas dire là pour le coup que la justice soit aux ordres de l'Élysée, semble-t-il.
Et oui, mais qui mène l'enquête ?
Est-ce que c'est il n'y a pas beaucoup de démissions.
Non, mais excusez-moi, il y a quand même un problème. C'est qui mène l'enquête ?
La police et la magistrature.
Pas le procureur. pas le procureur. On n'est pas dans les mêmes situations. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est que dans le cas de M. Ferrand, il y a eu un procureur qui s'est intéressé à l'histoire, classé sans suite. D'accord. Et ensuite, il y a un juge d'instruction qui s'intéresse à l'histoire et qui va contre l'avis du parquet et qui lance une enquête.
Non, à la suite de l'intervention d'Anticorps. Donc, c'est tout à fait différent, si vous voulez. Mais il est évident, Christophe Borsellier, il suffit de faire l'inventaire. On constate que des gens sont soupçonnés, sont poursuivis lorsqu'ils appartiennent au pouvoir. C'est votre conception, pardon de vous le dire, date terriblement sur la justice, je vous assure.
On va parler du Lofer. Hein ?
Ah oui, avec plaisir.
Allez, on quitte la politique française pour quelques instants. On retrouve des frères. Ils sont australiens, The Teske Brothers, raniment le blues au pays des kangourous. Teske Brothers sur France Inter, en attendant de les retrouver en concert à la Maroquinerie à Paris le 1er février 2020. Patience.
Je suis ici par la volonté d'un homme, par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française.
Le nouveau rendez-vous.
Il y a une instrumentalisation de la justice. Les choses sont claires.
Je vais aller beaucoup plus loin. Je vais mettre en cause le président de la République.
Laurent Goumard.
On cherchait un cabinet noir. On l'a trouvé, le cabinet noir.
Sur France Inter.
Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Fillon, en procès, tous en commun, le même discours, instrumentalisation de la justice. Et si on parlait Lawfare?
Bah oui, parce que le cabinet noir, c'est nous, Laurent, et donc j'aimerais bien qu'on parle de ce fameux concept assez nouveau, je dois dire, du Lawfare, comme il y a la Warfare, c'est un peu anglais tout ça, c'est l'instrumentalisation de la justice et des médias à des fins politiques. Il faut savoir que Mélenchon est allé, il y a quelques semaines, au Brésil, il a fait une tournée latino-américaine, il est allé rencontrer l'ex-président Lula, et il a donc, qui est en prison pour malversation financière, mais qui dit qu'il est un prisonnier politique. Je ne vais pas rentrer dans le fond du débat. Évidemment, c'est pas le moment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Mélenchon a co-signé une pétition qui s'appelle « Le temps des procès politiques doit cesser, pour en finir avec le lawfare ». Et je suis très impressionné par les signatures, parce que vous avez Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix, Aminata Traoré, vous avez Shumona Sinra, qui sont des romancières que nous connaissons, Lula, bien évidemment, Pablo Iglesias, le chef et l'inspirateur de Podemos, Esther Benbassa, qu'on connaît mieux, mais aussi alors des grands artistes comme Edouard Bond, le dramaturge anglais, ou Pippo Del Bono, le metteur en scène italien. Alors, Antoine Léaumont, cette pétition, ça veut dire quoi pour vous, cette pétition internationale, pour dénoncer, en quelque sorte, une instrumentalisation mondiale de la justice? C'est pas un peu du complotisme?
Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon.
Alors d'abord, je vous remercie d'avoir cité les noms des signataires, parce que le plus souvent, cette tribune est réduite à
Jean-Luc Mélenchon
et Lula. Tout seul, et il a réussi vaguement à extorquer une signature à Lula dans sa prison en lui faisant trembler le bras sur une feuille de papier. Voilà à peu près comment c'est décrit. Là, vous l'avez dit, parmi les signataires, il y a des ex-présidents, il y a
des intellectuels, des artistes.
Voilà. Donc c'est un sujet qui intéresse les gens dans de nombreux pays, parce que c'est aussi ça l'autre caractéristique des signataires, c'est qu'ils viennent de nombreux pays. Nous, on considère, dans le cas de Lula, le cas typique du lawfare, c'est-à-dire l'utilisation, effectivement, de la justice pour enfermer un opposant politique. En l'occurrence, dans le cas de Lula, il lui est reproché d'avoir un triplex, dont on n'a jamais pu dire où il était, ni établir le moindre élément de preuve qui puisse l'envoyer en prison. Et puis ensuite, on a découvert, grâce à des hackers, qui ont récupéré finalement les conversations entre le juge Moreau, qui l'a fait condamner, et je ne sais plus qui d'ailleurs, mais qu'il y avait eu une collusion pour essayer de faire emprisonner Lula. Il faut savoir que le juge Moreau, qui a fait condamner Lula, qui était présenté comme un chevalier blanc de la justice, etc., est aujourd'hui le ministre de la justice de Monsieur Bolsonaro, le président d'extrême droite. Donc on a là une situation typique où il y a eu un opposant politique mis en prison juste avant les élections, alors que Lula était en tête des sondages, pour clairement l'empêcher de se présenter. Après, vous utilisez le terme complot. Nous, on n'utilise jamais ce terme-là et on le fait à dessein parce que nous n'estimons pas que le lawfare, dans le cas de Lula, il est clair qu'il s'agit d'un complot. Dans d'autres cas, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être des effets de système. La carrière des juges, pas des juges, mais de procureurs, peut dépendre disons, du zèle qu'ils vont mettre à faire leur recherche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on constate qu'il y a des réseaux d'interrelations et des caractéristiques communes. Et en l'occurrence, vous parliez du rôle de la presse. Effectivement, la presse, dans ces procédures, joue un rôle qui est, de pression, parfois volontaire, parfois involontaire. Quand on répète en boucle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure...
On a bien le droit de dire quand même pourquoi il a une instruction judiciaire.
Je suis d'accord avec vous, mais quand on rappelle en boucle ça, il finit par se passer dans l'oreille des gens que la culpabilité est établie. Dans notre cas, c'est presque ce qui arrive. Les gens pensent que la culpabilité est établie. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a même pas de preuve.
Abel Mestre.
Oui, je pense autant que le cas de Lula est un exemple, effectivement, chimiquement pur, si je puis parler ainsi, de lawfare, puisque celui qui a enquêté, qui l'a mis en prison, est devenu ministre principal opposant à Lula. Autant je trouve que tirer et décalquer le cas brésilien sur le cas français est... un tant soit peu exagéré. Déjà parce que la justice française n'est pas la justice brésilienne, que c'est pas le même système, que la presse, je connais bien toutes les critiques que la France insoumise peut adresser à la presse française ne fait pas de complot comme au Brésil. Non, mais tu vois, au Brésil c'était clair, même Globo, si je ne me trompe pas, présenter ses excuses. Voilà, après... Dans la presse, on a toujours eu des révélations, que ce soit sur des PV, que ce soit des fuites, etc. C'est notre métier aussi de les mettre à la disposition du public. Les premiers concernés le regrettent, c'est normal. Mais nous, je pense que c'est le C'est la marche normale du journalisme d'investigation.
Mais Philippe,
vous avez fait votre carrière grâce à l'aide de l'État ou pas ?
Si j'ai fait...
Oui, à l'aide des gouvernements ou pas ?
Je dirais plutôt contre, par certains côtés. Parce que j'ai eu la grande chance d'avoir deux justices de luxe. Une justice où évidemment tout était gouverné, mais où j'ai tenté de sauvegarder ma liberté. Et aux assises, vous comprenez bien qu'à part quelques affaires politiques, en général, je n'avais pas d'emprise sur moi. Mais sur le Brésil, je rejoins Belmest, c'est-à-dire que à partir des sources qui sont les miennes, des discussions avec beaucoup de Brésiliens, j'ai l'impression que Lula n'était pas blanc comme neige tout de même.
Non plus.
Mais en même temps, c'est tout à fait choquant de la part de ce juge qui a aujourd'hui un rôle politique d'avoir clairement participé à la destruction politique de Lula. Mais là où je vous rejoins totalement, la comparaison avec la France est absurde. Est absurde. On peut penser ce qu'on veut du régime d'aujourd'hui, avec la garde des Sceaux d'aujourd'hui, qui est tout sauf nulle d'ailleurs, et ne pas la comparer finalement, ne pas comparer notre justice à celle des pays
totalitaires. Il y a une chose, je suis d'accord avec vous, il y a une chose que vous avez dit au tout début, Antoine Léaumont, qui était un peu exagéré peut-être, de dire que Mélenchon a été la victime de cette procédure parce qu'il était le principal adversaire de Nicolas Sarkozy.
C'était pas
Pardon,
le
mais les sondages disaient que le principal adversaire, peut-être malheureusement, c'est Marine Le Pen. Qui n'était qu'en cinquième position, je vous le rappelle, à l'élection présidentielle.
C'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, pour qu'il y ait doute sur la neutralité de la justice, il faut la conjonction de deux facteurs. Des faits semblent étranges. En effet, dans l'affaire Benalla, on se dit, mais pourquoi cette affaire de coffre-fort, personne n'a creusé. Bon, pardon de focaliser sur le coffre-fort, mais je crois que je suis pas la seule à l'avoir fait.
C'est assez énorme.
C'était assez symbolique. Et puis surtout, que le crime profite à quelqu'un, si j'ose dire. Par exemple, quand on s'est attaqué à Fillon, c'était assez simple. On s'est dit, tiens, il est bien placé, c'est un opposant. Donc les gens peuvent s'imaginer que en lui mettant une telle affaire dans les pieds, eh bien c'était une façon de le neutraliser. Pour Marine Le Pen, c'est quand même la principale opposante à Emmanuel Macron. J'ai envie de dire, Jean-Luc Mélenchon, à qui fait-il peur actuellement ? Pardon, mais il s'est auto-flingué, si vous me pardonnez cette expression, sur le plan politique tout seul. Il n'a pas eu besoin d'Emmanuel Macron. Je ne vois pas en quoi il ferait peur à Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça que j'ai un petit doute sur ces faits-là.
À l'époque, il ne faut pas raisonner, à mon avis, en termes de sondage, simplement pour déterminer qui est le principal opposant au pouvoir, il faut aussi regarder le travail parlementaire. Et en termes de travail parlementaire, en termes de sérieux dans les dossiers, je pense que le groupe de la France Insoumise ne souffre pas la comparaison. Enfin, je veux dire, on peut pas comparer le travail parlementaire des députés de la France Insoumise avec celui du Rassemblement National.
Et pour cause.
Et voilà. Oui, déjà, ils sont plus nombreux. Ils travaillent plus ces dossiers.
Mais
peu
importe, je dirais.
Non, mais c'était la voix. C'était au moment où vous voyez, il y avait le début de la contestation des Gilets jaunes. Enfin, c'était quelque chose. Il avait réussi à faire venir à la France Insoumise toute l'aile gauche du Parti Socialiste.
C'était pas le moment de piquer une crise de nerfs.
Tout à fait, mais il était plutôt dynamique. Il était plutôt dynamique. Faut le reconnaître.
Moi, je voudrais juste vous citer une phrase que j'ai trouvée intéressante de Bertrand Mathieu, qui est donc un professeur de droit, qui dit « Le système de surveillance s'étant renforcé, on relève de plus en plus d'affaires, ce qui donne l'impression qu'elles sont plus nombreuses, alors qu'elles sont dans l'ensemble bien moins graves que les scandales ayant émaillé la Troisième République ou les débuts de la Cinquième. »
Il a tout à fait raison. En réalité, ce que j'appelais tout à l'heure les politiques condamnées, il y a eu des années où les politiques considéraient qu'ils pouvaient commettre tout ce qu'ils voulaient, parce qu'ils étaient assurés d'une immunité, d'une impunité, et que tout à coup la justice n'est pas allée chercher les cibles, on les lui a apportées, c'est là-dessus que... Et parfois les médias ont fait un travail que la justice a exploité.
Androne Léaumont.
Oui, juste un petit mot. Alors,
ce sera le mot de la fin.
Plusieurs choses. Il s'agit pas de mettre sur le même plan la justice du Brésil et la justice de la France et la justice de la Russie.
Ah, vous revenez sur le dossier précédent.
Évidemment, nous ne comparons pas tous ces systèmes judiciaires. On dit juste qu'il y a des similitudes dans certains cas. Et juste un truc sur les publications qui sont faites des procès verbaux dans la presse, c'est un problème. Je suis désolé, juridique aussi. Nous, quand on demande à la ministre de la Justice de contrôler ça, elle nous dit, il n'y a pas de problème, tout ça est normal, d'ailleurs ça arrive tout le temps, etc. etc.
Elle a tort,
elle ne fait pas son travail de contrôle des institutions judiciaires.
Mais il est très difficile de savoir qui viole le secret.
Oui, et s'il y a des logiques de corruption qui sont à l'intérieur, s'il y a des logiques politiques qui sont à l'intérieur, il est très difficile toujours de savoir pourquoi ces documents finissent toujours par aller dans la presse. Et évidemment, c'est, encore une fois, les petits extraits qui sont choisis, qui vont laisser un soupçon de culpabilité sur les éléments.
Et bien sûr, tout ça nourrit les théories complotistes.
Mais non.
Mais si. Mais d'une certaine
encore,
façon.
Mais non. Encore.
Ça sera un dossier pour une prochaine fois.
C'est une autre émission.
C'est jamais le complot. J'utilise l'expression effet de système parce que je pense que c'est un effet de système, pas un complot, un effet de système.
Alors, ça sera le mot de la fin. On va partir tous en musique et tous en live sans énervement dans quelques instants.
Ça dépend. Ils ont un casier judiciaire.
Sur France Inter.
Ils sont trois derrière vous, Marion Guilbeault.
Vous trouvez qu'ils ont des têtes de repris de justice?
On ne sait jamais, vous avez vu la tête des autres?
Non, c'est pas, on verra. Bon, on a dépassé 22h22, mais c'est tout de même le moment d'accueillir Pion. Alors, je précise pourquoi je vous dis 22h22, parce que 22h22, c'est le titre de leur premier album. Pion, c'est un trio parisien, ils font partie de cette génération élevée aux algorithmes, mais qui sait s'en affranchir. C'est trois musiciens qui ont déjà fait leurs armes au sein du groupe Blind Digital Citizen, et ils sont bien décidés à en découdre encore avec les machines, le consumérisme et tout ce qui empêche le monde de respirer. Les chansons de Pion inventent le psychédélisme de demain. C'est comme des kaléidoscopes entre Kraftwerk et Manset. Elles parlent d'archéologie comme de fanatisme, d'antiquité comme de dystopie. On se sent aspiré par leur musique hypnotique, leur mantra diabolico-ironique. Avec Pion, on est comme dans une free party où on réciterait de la poésie. 22h22, c'est le titre donc de ce premier album. Et c'est aussi l'heure double, leur miroir, l'heure ou le moment, la réalité s'inverse et tout et son contraire peut advenir. Ça, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Alors, ils vont nous jouer un titre qui s'appelle Coca Loca et je voulais demander à François, le chanteur et l'auteur des textes, quel en était le goût de ce Coca Loca et quelle en était la formule, François?
Ben, on n'a qu'à dire que c'est un hymne à l'innocence.
Un hymne à l'innocence. Et ça colle bien avec la formule du Coca Loca, vous trouvez?
Bah oui, complètement. Puis ouais. C'était un synthétiseur qui nous parlait comme ça. Il faisait Coca Loca, alors. On a...
D'accord, ça me paraît parfait. Bon, on va vous écouter. Pion, c'est à vous.
connectés à d'autres délivrances, à des rivières argentées. Une ultime confidence déposée à tes pieds quand tu danses. À quoi tu penses? À quoi tu penses que la terre te laisse jouer à pieds joints dans la chance d'un pays oublié, l'air si pur de ses sommets que gravit ton enfance, l'expérience. Quand tu danses, à quoi tu penses que le soleil s'est levé, un déluge de confiance fracturé, fracté, une nouvelle obédience dans le ciel déchiré, l'air si pur de ses sommets quand tu danses.
Christophe hésitait avant d'applaudir. Ouais,
c'est extrait de leur album 22h22, c'est sorti sur le label Entreprise Pioncé. François, Louis et Charles, ils seront en concert au pop-up du label à Paris le 11 octobre. La prise de son ce soir, c'est Fabrice Desmas, Julien Dumont et Selim Guéribi. Merci messieurs, merci à vous Pion d'être venus au Nouveau Rendez-vous.
Et merci à tous nos invités, merci Gabriel Cluzel, Antoine Léaumont, Abel Mestre, Philippe Bilger, je rappelle, Le Mur des Cons, le vrai pouvoir des juges, paraîtra le 2 octobre chez Albin Michel. C'était le NRV, première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV La Suite, pour plus de France Inter. Lundi, au programme, ce sera ça.
Assurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Au trou !
C'était la justice aujourd'hui, ça me fait toujours rire. La police, lundi, elle en fait trop après ou pas justice, assez? Vous serez, bah oui, c'est ça, on va tous les faire, tous les corps. On vous attend sur le sujet. Vous pouvez vraiment laisser des messages, des questions ou vos analyses sur notre répondeur, c'est la nouveauté de l'année. On a un répondeur, servez-vous-en. 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et pourquoi pas, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. En live, Marion, lundi.
Rodolphe Berger, sa voix grave et sa guitare.
Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter. Alors, soit 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast, soit 22h minuit pour les plus classiques d'entre nous. Alors, à la radio, comme tout le monde, le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation et la préparation, Virginie Rouzic et Clémence Diligent. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal, direction le divan de Freud. C'est au programme du NRV, la suite France Inter+. À tout de suite.
Rendez-vous.